Bonjour, buongiorno, signore e signori, mes chers amis. Bonjour. L'histoire que je vais vous raconter est très belle, dramatique, et donne un tableau d'une situation qui se vérifia à Paris, et je dois dire entre Paris et Rome, plus en général entre Paris et l'Italie, entre les deux siècles, comme on le définit habituellement, c'est-à-dire fin 19e, début 20e. Dans ce petit demi-siècle, dans cette cinquantaine d'années, entre la fin du Second Empire et la Première Guerre mondiale, Paris est la ville la plus vivante de la planète. Pourquoi ça arrive? C'est ce qu'on appelle la Belle Époque, qui n'a pas été belle pour tout le monde, bien sûr, mais en fait, l'économie s'est portée mal en cette période. Les ouvriers sont exploités. Leurs grèves sont régulièrement matées par l'armée. Le travail des enfants et la prostitution féminine sévissent partout. De notre côté, il y a aussi une société prospère qui jouit d'une aisance sans précédent, qui va au théâtre, prend part à une vie mondaine façonnante, voyage, s'adonne à des plaisirs jusqu'alors inconnus, mais rendu possible par les progrès technologiques. Et surtout, pour ce qui nous concerne ce matin, et surtout, aiment acheter des beaux tableaux pour les accrocher au mur de leurs appartements. Voilà, ça c'est le point où on conclut ces petits panoramas. Paris se transforme et les avant-gardes de la peinture trouvent dans la capitale française un lieu idéal pour s'exprimer. J'avais oublié de dire qu'on m'a donné un temps de parole de 15 minutes, je m'y tiendrai. Voilà. C'est 10h28, 45 maximum, je me tairai à jamais. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement des arts figuratifs, une fièvre s'empare de Paris et tous les domaines de la créativité artistique affichent une insolente vitalité. Et les Italiens, bien sûr, accourent, car à Rome, c'est le contraire qui se passe. Comme beaucoup de gens parmi ces publics connaissent très bien. Rome avait réussi à rejoindre le reste du pays, même si avec un acte de force de la part du royaume d'Italie, il avait fallu l'artillerie des piémontais, comme on les appelait, et enfoncer une partie des murailles de la ville éternelle pour arriver à y pénétrer. Les années dont on parle ne sont pas favorables à la capitale italienne ni à la péninsule en général. Elles sont marquées d'un côté par les ambitions d'un jeune royaume qui voulait faire entendre sa voix dans le « concert des nations », comme on disait alors, et de l'autre côté par les difficultés objectives dues au retard des vastes régions du pays et à la mise à mal de ses ambitions coloniales. Attiré par son atmosphère extraordinairement libre et par les marchés florissants qu'elle constitue, les artistes italiens débarquent donc en masse dans la capitale française. Vous savez, là, il y avait deux conditions qui les attirent. Il y avait eu, tout pour commencer, la révolution de la peinture impressionniste, la première génération, par exemple Monet, Sisley, Pissarro, et surtout la notoriété d'artistes tels que Gauguin, Van Gogh, Cézanne, qui avaient renversé la situation en faveur de la capitale française, plus particulièrement de quelques-uns de ce quartier. Une autre raison parmi les autres, il y en a plusieurs bien sûr, une des plus importantes est certainement la grande tolérance des autorités face aux comportements souvent excentriques, pour ne pas dire provocateurs, des artistes. Ces deux conditions ne se vérifient pas à Rome. Et ces deux conditions sont parmi les raisons plus fortes qui attirent ici une masse d'artistes tels que Giovanni Boldini, un des premiers à arriver, qui créera un style. Et puis il y en a beaucoup d'autres, De Nittis, Corcos, De Pisis, De Chirico, Maffei, Gino Severini, je ne vais pas faire la liste complète, mais par esempio Gino Severini, rappresentante di futurismo, un movimento dirigé par Filippo Tommaso Marinetti, Séverine épousera Jeanne, la fille de Paul Fort. Et leur propre fille, Gina, née à Paris, épousera à son tour le sculpteur Nino Franchina. Et Jeanne, qui a vu le jour à Paris, mourra à Rome. Tandis que, par exemple, Boldini, qui a vu le jour à Ferrara, mourra à Paris. Donc, vous voyez comme les vies et les œuvres de ces artistes s'entremêlent et fondent des liens stricts, robustes, solides entre les deux pays, les deux capitales et les deux nations. Et je voudrais là mettre, permettez-moi de mettre un tout petit accent sur le double crime face aux êtres humains, bien sûr, d'abord, mais aussi à l'histoire de deux pays et de la culture en particulier, le double crime, je disais, qu'a été la déclaration de guerre de Mussolini à la France en juin 1940, qui a été un acte abominable, que je ne cesse pas de citer comme exemple négatif d'un comportement politique délirant. L'Italie a connu souvent des comportements politiques délirants, et parfois elle s'en est sortie, parfois moins, mais enfin, l'espoir est encore là. De toutes ces histoires qui se sont déroulées entre l'Italie et la France, il y en a une que j'aimerais vous raconter. Une histoire dramatique, très belle. En italien, je dirais bellissima. Amedeo Modigliani, frère d'Emmanuel, un député socialiste, arrive à Paris en 1906. Il débarque à la gare de Lyon. Fils d'une famille juive de Livourne, de la bonne bourgeoisie, tout habillé avec son manteau, un bâton. Et il avait démontré une certaine habileté soit comme dessinateur, soit comme peintre. Il essaie de s'installer à Montmartre. Au début, ses œuvres sont essentiellement des sculptures, qui ne révèle pas encore cette flamme, disons même le génie, qui le rongera toute sa vie. Mais il se plonge dans une ambiance tellement différente que celle qu'il s'attendait, qu'il devient comme fou. Et ce fils de la bonne bourgeoisie juive livournaise devient un ivrogne vituperant, qui boit ses drogues quotidiennement et arrive presque, comme on le verra, à miner sérieusement sa santé. Il commence à peindre à un rythme effréné. Entre ses fonctions vitales et la peinture, il n'y a pratiquement plus de temps libre. On le surnomme le cygne de Livourne. Il est le plus beau, d'une beauté troublante, d'ange dessus, à l'italienne, comme on disait à l'époque, peut-être à cause de la vivacité, de la lumière extraordinaire de son regard que même l'alcool ne parviendra jamais à voiler. Écoutez là, ce témoignage du critique d'art Florent Fels. Parfois, loin de l'obscurité du boulevard, on entendait monter un cri inhumain, comme celui d'une bête traquée, et un cri de fauve blessé à mort. C'était Modigliani qui, ivre, hurlait à la lune. C'est une image très romantique, si vous voulez, mais aussi tragique. Printemps 1917, en pleine guerre, il avait essayé de s'enrôler dans l'armée française, mais il avait été réformé parce qu'il était très, très, très malade. La phtisie l'a rongé. Et au printemps 1917, il connut la femme de sa vie, Jeanne Hébuterne. Elle avait 19 ans, Amédée 33. Elle était la seule fille de parents catholiques, très pratiquants, avec lesquels elle vivait dans son bel appartement situé au numéro 8 bis de la rue Amiot, derrière le Panthéon. Elle voulait se consacrer à l'art, comme son frère aîné André, mais ses parents essayaient de l'en dissuader. Comme cela arrive souvent, ces derniers finirent par devoir céder. Ceux qui l'ont connue disaient qu'elle avait le teint mat, de manière douce, un visage régulier, des yeux vaguement orientaux et l'air lointain presque rêveur. Ce fut le coup de foudre et l'intensité de leur amour était telle que pendant quelques mois, Amedeo cessa de boire et de se droguer. Mais les parents de Jeanne étaient catastrophés de voir leur fille liée à ces juifs. Vous pouvez imaginer la douleur d'un père qui voit sa fille bien-aimée liée à un juif italien, sans les sous, malade. Peut-il avoir... Non, si je peux ouvrir ici et clore rapidement une parenthèse. Chaque fois que je vois l'hôtel, vous vous souvenez, dans le premier acte, il y a le pauvre sénateur Brabantio qui se désespère, qui est désespéré parce que sa fille Desdemona s'est liée à un, disons-le, à un nègre furieux. Et il craint que le pire n'aille arriver. L'amour vint, mais à la fin, la tragédie démontre que le pauvre sénateur Brabantio avait raison, malheureusement. Et c'est la même situation, si on peut le dire, ici. Tora Klinkovström, étudiante en art issue de la haute bourgeoisie suédoise, venait d'arriver à Paris et avait rencontré Modigliani à la Rotonde, où il allait boire et devenir sous. Elle lui proposa de poser pour un portrait. Ce fut l'un des derniers d'Amedeo. C'est Tora qui nous a laissé un témoignage de la façon de travailler du peintre et de l'ambiance où il vivait, et avec Jeanne qui attendait un deuxième enfant. La jeune Suédoise fut impressionnée par l'état épouvantable de l'appartement atelier de Modigliani, par l'indigence de quelques meubles et les sols joncés de charbon et d'allumettes. Quant à lui, il peignait très vite et en buvant au goulot quelques gorgées de rhum, Guillemet contre l'atout, comme il disait. Certes, il toussait beaucoup. Elle ne vit jamais Jeanne à l'atelier et le souvenir qu'elle en conservait, c'était celui d'une femme menue et légère, au regard terrorisé. Amedeo toussait, et il en avait bien raison, la tuberculose était en train de les tuer. Les amis qui allèrent le voir alors qu'il était désormais au bord de l'agonie racontent que le sol de la pièce était joncé de boîtes vides. Et dire qu'un médecin appelé par l'une de ses connaissances avait déjà révélé les symptômes d'une méningite tuberculeuse. Le diagnostic n'échangea rien à ses habitudes, peut-être même pas à ses rêves. Travailler, et c'était un miracle. C'est de cette époque dramatique que datent ses plus beaux portraits, beaucoup de Jeanne, et on s'est beaucoup demandé si Modigliani s'était sciemment laissé mourir ou si la maladie l'avait emporté parce qu'il n'avait pas su en comprendre la réelle gravité. Les faits ne nous donnent aucune réponse. Le peintre Ortiz de Zárate, aux Zaratés, écrira beaucoup plus tard qu'il aida Modigliani en lui faisant livrer un peu de charbon. Quelques jours avant la mort de ce dernier, il alla les voir et les trouva dans un état affreux. Allongé avec sa femme sur une paillasse d'une saleté répugnante, dans la pièce devenue un véritable taudis, les matelas et les sols étaient couverts de boîtes de sardines vides, encore luisantes d'huile. Déjà moribond, Modigliani ne mangeait plus que cela depuis 8 jours. Vous voyez, c'est un homme qui, moi, mon opinion à moi, qui ne vaut rien, bien sûr, mais c'est un homme qui s'est laissé mourir. On ne sait pas pourquoi. Enfin, on peut soupçonner les raisons. Parce qu'il n'avait pas été reconnu en tant que peintre, comme vous allez écouter d'ici une minute. Aussitôt appelé, le médecin ordonna une hospitalisation d'urgence à la Charité rue Jacob. C'est là où maintenant il y a la faculté de médecine. Là, il avait l'hôpital de la Charité. L'artiste n'est sorti jamais du coma et mourut 2 jours plus tard, le 24 janvier 1920, à l'âge de 36 ans. On accompagna Jeanne, enceinte de 9 mois, dans un hôtel du quartier. À l'annonce de la mort d'Amédée, elle réagit apparemment avec calme, demanda de voir sa dépouille. À la sortie, les amis du couple lui conseillèrent de se faire hospitaliser elle aussi, mais elle refusa car elle pensait retourner chez ses parents. Peut-être poussée par son épouse, son père, finalement, vint alors lui proposer de venir se reposer dans l'appartement familial de la rue Amiot, ce qu'elle accepta. Ce qui s'est ensuite passé pendant la nuit n'est pas plus clair que le reste de cette tragédie. André Ebuterne, le frère, qui aimait apparemment beaucoup sa sœur, est longtemps resté avec elle dans sa chambre. Épuisé, il aurait fini par s'assoupir à l'aube. Comme si elle avait attendu le moment propice, Jeanne ouvrit immédiatement la fenêtre, s'adossa au rebord pour ne pas voir le vide et se laissa tomber du cinquième étage, en se tuant avec le bébé qu'elle attendait. Des amis, écoutez la suite de ce conte qui n'est pas moins tragique que le reste. Des amis insistèrent auprès des parents de Jeanne pour que le peintre et sa compagne reposent ensemble, mais en vain. Ils se heurtèrent à la volonté de la famille qui essayait le plus possible d'éviter le scandale. D'ailleurs, les parents Ebuterne refusèrent même de voir la dépouille de leur fille et imposèrent une cérémonie pratiquement clandestine à 8h du matin dans ce froid matin de janvier, dans cette année 1920. 2 ans plus tard, sur l'initiative de frère d'Amédée Emmanuel, et le député socialiste, les dépouilles seront enfin réunies au Père Lachaise, là où vous pouvez aller les visiter aujourd'hui. Si la tombe, on peut lire ces mots en italien. Amedeo Modigliani, pittore, nato a Livorno, morto a Parigi, morte lo colse quando giunse alla gloria. La mort l'emporta alors qu'il atteignait la gloire. Jeanne Ebuterne, nata a Parigi, morte à Parigi nel 20, elle avait 22 ans quand elle se suicida. Di Amedeo Modigliani, compagna devota fino all'estremo sacrificio, compagne dévouée jusqu'all'ultime sacrifice. Et là commence le paradoxe, vous voyez, cette histoire ne cesse pas de rebondir sur elle-même. Là commence le paradoxe de cette histoire. Parce qu'il n'avait fait qu'une exposition pendant toute sa vie. Comme peintre. Quand il meurt, sa gloire commence. Commence aussi une période que nous connaissons comme la période des années folles, les années 20. Les lumières, l'extravagance, la musique syncopée du jazz, la littérature devenue spectacle, la mode devenue culture. Et Modigliani disparit avec les ombres d'une époque encore trop marquée par le XIXe, même si celui-ci était fini depuis longtemps. Une époque plus pauvre, plus sombre, plus sobre, imprégnée de mélancolie, cette mélancolie qui lui était propre. Tout ce qui, de son vivant, avait semblé chez lui problématique et ambigu, indigne d'attention, métamorphosa brusquement et prit un sens avec sa mort. On sait que tandis que le cortège suivait son cercueil de l'hôpital au cimetière, la côte de ses tableaux commença à monter et elle ne s'arrêtera plus. Dû à la légende noire qui immédiatement se créa d'un peintre mort d'une façon tragique à 36 ans, et de sa compagne morte à 22 ans avec son bébé qu'elle attendait. Vous voyez, cette double tragédie fait exploser les prix des tableaux. Ceux qui étudient les phénomènes de la société devraient y réfléchir. C'était 1920, hein, c'est pire qu'aujourd'hui, disons. Ce qui s'est produit, c'est qu'en mourant, ce peintre qui, de son vivant, n'avait jamais été vraiment compris, perçu tour à tour comme un jeune homme gentil, bien élevé, tranquille, ou au contraire comme un ivrogne, vituperant et bagarreur, révélait brusquement une personnalité et laissait un souvenir qui correspondait bien à son surnom, maudit, à la fois diminutif de Modigliani et maudit, présage d'un destin d'artiste maudit. Merci.